vous suit.
Voici les titres du journal.
Dîner sans voir ni entendre, c'est le projet de sensibilisation qui a lieu jusqu'à demain en marge de la journée internationale de la surdicécité qui a eu lieu ce lundi. Le Valais, la Haute-Savoie et la Vallée d'Aoste lancent une nouvelle plateforme dédiée à la mobilité transfrontalière. L'application Ecomob veut encourager les habitants et visiteurs de l'espace Mont-Blanc à se déplacer de la manière la plus durable possible. Dans le canton de Vaud, les conseillers d'État et les députés du Grand Conseil ont prêté serment hier au sein de la cathédrale de Lausanne. Christelle Luizier a en outre été élue présidente du gouvernement. Le 100 000e visiteur de l'année a franchi hier le pont-levis du château de Chillon plus tôt qu'à l'accoutumée. Et le bazar centenaire a enfin rouvert ses portes au public. En football, le Lausanne Sport accueille le Dynamo Kiev ce soir pour un match amical. Et en course à pied, depuis avril, la saison de Maud Matisse est passée en mode montagne avec en ligne de mire les championnats d'Europe.
Du soleil pour cet après-midi, du soleil aussi pour demain avant le retour des orages. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Blom. Bonjour Valérie.
Bonjour. La chef du service valaisan de la culture a annoncé son départ. Nommée le 1er septembre 2020, Anne-Catherine Suttermeister va quitter sa fonction le 31 octobre prochain. Sa décision intervient à la suite de tensions internes et par souci de loyauté envers l'institution. Elle souhaite ainsi apaiser la situation et préserver les relations entre le service et ses partenaires. En cas de vacances avant une nouvelle nomination, l'intérim sera assuré par son adjoint Alain Dubois.
Manger un repas sans voir ni entendre.
C'est le projet de sensibilisation qui a lieu jusqu'à demain en marge de la journée internationale de la surdicécité qui a eu lieu ce lundi. 4 organisations se sont alliées à plusieurs restaurants suisses pour attirer l'attention de la population sur cette problématique. Ces établissements invitent leurs clients à se mettre dans la peau d'une personne sourde aveugle le temps d'un repas. Des sets spécialement conçus pour l'occasion se sont disposés sur leur table. Françoise Guétruffer, directrice de la Fondation romande sourde aveugle à Montais.
L'année passée, les Montaisans, je pense, se souviennent de tous ces tricots qui ornaient les différents monuments, le vieux pont de bois, la fontaine, et puis les arbres qui étaient devant l'office du tourisme. Et puis cette année, on s'est dit, on va trouver un autre angle, et puis la nourriture, l'aspect, comment on peut appréhender un plat avec les odeurs, avec le goût quand on ne voit pas, et comment on peut surtout se comporter et avoir des informations dans un restaurant quand on n'a pas les deux sens. Voilà, ça c'était un petit peu d'aller sur la nourriture, parce que finalement la nourriture ça fait partie des bons plaisirs de la vie, hein. Puis voilà, pour nos personnes c'est important d'aller au restaurant, mais elles sont confrontées à des difficultés et puis on doit la plupart du temps les accompagner pour pouvoir commander, pour pouvoir accéder à ce plaisir de la table.
Des propos recueillis par Julie Gay. À noter qu'en ville de Montais, les restaurants du Capri, le Méditerranéo et la buvette du tennis participent à cette action jusqu'à demain soir.
Une seule plateforme pour se déplacer sur 3 pays.
C'est le nouveau projet de l'espace Mont-Blanc. Le Valais, la Haute-Savoie et la Vallée d'Aoste lancent une nouvelle application dédiée à la mobilité transfrontalière. Cet outil digital est destiné aussi bien aux locaux qu'aux visiteurs et aux touristes. Le but est de rassembler toutes les informations relatives à l'offre en matière de transport dans ce territoire de montagne à la topographie complexe. Un accent tout particulier est mis sur la mobilité durable. Loïc Damaillan, chef de projet au sein du centre de recherche CREM de Martigny, le partenaire suisse de ce programme.
Alors, il y aura tout ce qui est car sharing électrique, les bus qui sont plutôt orientés électriques. On aura aussi tout ce qui est, bien sûr, voie de chemin de fer. Et puis, petit à petit, dans la plateforme, le but, c'est aussi de construire dessus et puis de rajouter, par exemple, les pistes cyclables ou d'autres éléments comme ça.
Baptisée Ecomob, la nouvelle application mobile dédiée à la mobilité dans l'espace Mont-Blanc sera lancée au mois de septembre. Mais quel bénéfice le Valais peut-il espérer en tirer? Question est posée à Loïc Damaillan encore.
C'est aussi de mettre en valeur notre territoire, parce que sur cette plateforme, il y a aussi la possibilité de voir des lieux d'intérêt. Et du coup, c'est de mettre aussi en avant certains lieux d'intérêt valaisans qui sont peut-être pas forcément connus, ou que des touristes qui avaient prévu peut-être d'aller que du côté du versant italien ou français se disent « Ah, j'ai peut-être envie d'aller aussi, de planifier quelques jours du côté suisse ».
Vous avez des exemples de curiosités valaisannes qui seront mises en avant sur cette plateforme?
Alors, pour l'instant, on va mettre en avant l'hospice du Grand Saint-Bernard, par exemple. Il y aura la possibilité de faire une visite virtuelle immersive avant, pour voir à quoi ça ressemble. Jardin Floralpes, on a aussi la volonté de développer une visite immersive. On interagit avec les éléments, on peut rajouter du contexte, la description audio, une image. Quand on clique sur une fleur, pour, par exemple, qui nous montre de plus près la fleur et qui nous explique c'est quoi cette fleur, on se rend un petit peu dans un jeu et puis on peut cliquer sur les choses et puis ça réagit dès qu'on clique dessus, quoi.
Le but de ces visites virtuelles, c'est quoi ? C'est de donner envie aux touristes de venir physiquement sur place ?
Oui, je pense exactement. Le but, c'est de présenter les choses et qui viennent après sur place voir de leurs propres yeux le territoire, quoi, et puis le site en lui-même.
Des propos recueillis par nos confrères de Rhône FM. Le coût de ce projet se monte à près de 2 millions d'euros, financé à 85% par le Fonds européen de développement régional.
La nouvelle législature peut commencer dans le canton de Vaud.
Je le promets, un serment qui a résonné de nombreuses fois hier matin au sein de la cathédrale de Lausanne. Les 150 députés du Grand Conseil et les 7 membres du Conseil d'État ont prêté serment. Cette cérémonie a également permis d'introniser Christelle Luisy en tant que nouvelle présidente du gouvernement.
Pour moi, le coton, c'est là où je vis. C'est là où j'ai envie que mes enfants puissent s'épanouir, j'ai envie que chacune et chacun puisse se réaliser selon ses souhaits. Et donc, il y a des valeurs qu'il faut mettre en œuvre, les valeurs de liberté, de cohésion, de proximité. Je crois beaucoup à proximité et au fait que les élus aillent à la rencontre de la population, parce que sinon on reste dans une tour d'ivoire et donc on n'est plus en phase avec les attentes des Vaudoises et des Vaudois. Il s'agira sur ces prochains mois de construire le programme de législature ensemble. Mais ce qui est important, c'est de garder la cohésion du gouvernement, du Parlement et au final de la société en entier. Et donc on est dans un gouvernement de concordance et on fera tout pour que ce gouvernement comme le précédent puisse parler d'une seule et même voix par rapport à des défis majeurs qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes que ceux de 2017 à la suite de la pandémie et de la crise en Ukraine.
Cette cérémonie d'assermentation, seule Nuria Gorité, ministre socialiste sortante, la connaissait. Elle était en effet la seule du collège présente au sein de la cathédrale il y a 5 ans. 4 nouveaux venus pour cette législature, tandis que Rebecca Ruiz et Christelle Luisy ont été élus en cours de mandat. Nuria Gorité.
4 nouvelles personnes à accueillir, c'est une première. D'habitude, on accueille toujours une personne après l'autre. Donc c'est tout à fait insolite, c'est un défi. Mais c'est la force des institutions. Je dirais qu'elles résistent aux individus. Et c'est ce que nous rappelle sans doute la journée d'aujourd'hui. C'est qu'au-delà des destins humains individuels, l'institution, le canton de Vaud et ses institutions doivent perdurer et fonctionner parce que c'est les meilleurs, c'est les seuls remparts de la démocratie.
Des propos recueillis par notre confrère de LFM, Robin Jaunin. L'entrée en fonction officielle se fera ce vendredi, premier jour de la législature 2022-2027.
L'heure était aux réjouissances hier au château de Chillon.
Et pour cause, le 100 000e visiteur de l'année a déjà franchi les portes du monument le plus visité de Suisse, et ce plus tôt que les années précédentes. Un signal fort pour la fondation du château de Chillon, qui après une période difficile en raison de la pandémie, a cherché à se réinventer. De nombreuses activités pour découvrir le château ont été mises en place par l'équipe de médiation culturelle et les enfants ne sont pas en reste. Lise Levrat-Dorier, responsable de la communication de la Fondation du Château de Chillon.
Pour les enfants qui ont de 8 à 12 ans, on a mis en place l'atelier broderie au fil de l'aiguille pour réaliser un chaperon. Donc c'était comme le petit chaperon rouge. Au Moyen-Âge et plus tard, on portait toujours un couvre-chef et puis comprendre toujours pourquoi. On a aussi une visite guidée pour les tout-petits de 3 à 6 ans. C'est la découverte du coffre au trésor où il y a un guide ou une guide en costume d'époque qui montre des objets anciens aux enfants. Et les enfants, après, peuvent choisir certains objets et les retrouver en parcourant dans le château et comprendre vraiment leur utilisation dans les salles du château de Chillon.
La fondation du château de Chillon a aussi repensé le bazar centenaire du château, fermé depuis le début de la pandémie. Il a rouvert début juin et offre au public de nouvelles créations, dont de nombreuses réalisées par l'illustrateur Cui Cui. Notez encore que le vin du château, le Clos Chillon, est toujours disponible, un sujet réalisé par Martine Vistiner. Les potentielles laves torrentielles sont surveillées dans les Alpes vaudoises. Un système de détection et d'alarme est désormais opérationnel sur 2 tronçons de route cantonale reliant Aigle au Mos et le CP au col du Pillon. Son objectif, améliorer la sécurité du trafic lors de coulées, lesquelles se présentent sous la forme d'un mélange d'eau et de matériaux s'écoulant rapidement dans des ravines ou torrents pendant de fortes intempéries. Ce dispositif vient compléter les mesures mises en place depuis 2018 à la suite d'événements survenus sur ces 2 sites. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de heavy metal. Metallica ne se produira pas aujourd'hui au festival à Frauenfeld. Un membre de la famille Metallica a été testé positif au Covid-19 malgré les mesures d'hygiène les plus strictes, annonce le groupe. Le quatuor californien a toutefois la ferme intention de se produire en Suisse le plus vite possible, ajoute-t-il dans un communiqué.
La chancellerie fédérale a validé le lancement de deux initiatives populaires lancées par des associations de défense des animaux.
Ces textes souhaitent faire interdire respectivement l'exportation du foie gras et celle des fourrures obtenues dans des conditions cruelles. Deux thèmes actuellement suspens au Parlement fédéral. Mais faut-il pour autant inscrire dans la Constitution suisse une interdiction alimentaire ? Porte-parole du comité d'initiative, Luc Fournier, explique leur stratégie.
En fait, en tant que citoyen, on ne peut pas faire autre chose que lancer une initiative qui vise à changer la Constitution. Ce qui est important avec cette initiative, c'est de mettre en avant l'incohérence qu'on a quand on vote des dispositions qui visent justement à épargner les animaux, à éviter de leur infliger trop de souffrance, mais d'accepter que ça se passe à l'étranger et qu'on consomme ce type de produit. Donc si on vote une législation qui est respectueuse des animaux, il faut qu'on soit cohérent et qu'il faut qu'on accepte aussi de la mettre en application pour les produits qui sont importés.
À votre avis, qu'est-ce qui sera le plus difficile dans la récolte de signatures, contre la fourrure ou contre le foie gras ?
Alors, en Suisse alémanique, le foie gras, ça va être du caviar, si on peut dire. Et à l'inverse, en Suisse romande, ça va être très compliqué. Le fait de lancer l'initiative fourrure en même temps va être, je pense, intéressant parce que ça peut faire appel et puis ça peut intéresser des personnes à venir et à ce qui nous permettra ensuite d'entamer des discussions sur la thématique du foie gras, en tout cas en Suisse romande.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Frédéric Nejade Toulamy. Les initiants doivent à présent récolter au moins 100 000 signatures jusqu'au 28 décembre 2023. En parallèle, une motion parlementaire pour interdire le foie gras, acceptée au Conseil national en février, devra encore être débattue au Conseil des États. La compagnie aérienne suisse a décidé de supprimer 676 de ses 31 414 vols prévus pour la période d'août à octobre prochain. Ces annulations représentent environ 2% du programme de vols prévu et se traduisent par de nouvelles réductions de fréquences. Dans un communiqué publié hier, la filiale de Lufthansa assure continuer de relier la Suisse à l'Europe et au reste du monde. À l'étranger, Donald Trump savait que certains de ses partisans étaient armés quand il les a appelés à marcher sur le Capitole le 6 janvier 2021. Il a ensuite cherché à prendre le volant d'une limousine pour les rejoindre, selon un témoignage accablant livré hier au Congrès. Une ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche, Cassidy Hutchinson, a en effet dévoilé devant une commission parlementaire les faits et gestes précis de l'ex-président lors de cette journée qui a fait trembler la démocratie américaine. Selon elle, Donald Trump a essayé de prendre le volant d'une limousine présidentielle à un policier du Secret Service pour se mêler à ses partisans qui marchaient vers le Congrès afin de tenter de bloquer la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Un Palestinien a été tué à l'aube ce matin lors d'une opération de l'armée israélienne à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie, selon des sources palestiniennes. Mohamed Mareh, âgé de 25 ans, a été mortellement blessé par une balle reçue en pleine poitrine. La Russie représente une menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN, a déclaré ce matin Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, alliance qui va renforcer son flanc oriental en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine. Réunis en sommet à Madrid, les pays de l'OTAN doivent réviser la feuille de route de l'Alliance pour la première fois depuis 2010. En football, le Lausanne Sport affronte le Dynamo Kiev ce soir pour un match en faveur de la paix. Dans le cadre du Festival de football des Alpes, la formation ukrainienne va disputer plusieurs rencontres amicales face à des équipes suisses. La première d'entre elles se disputera ce soir face au LS au stade de la Tuilière. Un duel qui se jouera en faveur des réfugiés ukrainiens mais qui servira aussi de match d'entraînement pour le nouveau staff lausannois. L'occasion aussi pour les nouvelles arrivées de prendre leur marque sur le terrain. C'est le cas d'Olivier Custodio. Le Montreusien a retrouvé son club formateur cet été en provenance de Lugano. Pour lui, il s'agira d'un match spécial, mais qu'il faudra jouer pleinement.
C'est un match amical, donc je ne pense pas que ce sera un match où il y aura des excès d'engagement ou ce genre de choses-là. C'est vraiment un match où on pensera à se préparer à continuer la préparation et en vue du début de saison qui arrive. Et je pense qu'il faut se concentrer là-dessus après ou avant le match. On parlera peut-être du reste, mais je pense que du moment que l'arbitre siffle le coup d'envoi, il faut se concentrer sur le foot.
Tout dernier mot, Olivier Custodio, on a beaucoup parlé de ce soutien qu'il y a de manière générale dans le monde du foot pour l'Ukraine, pour le pays. C'est important de montrer aussi que le Lausanne Sport, qu'en Suisse, il y a cette solidarité-là, au-delà même du football.
Ouais, bien sûr, je pense que le monde a été très solidaire ces derniers mois avec l'Ukraine, certains pays plus que d'autres, mais je pense que c'est positif de voir que la Suisse, que le Lausanne Sport répond favorablement à cette solidarité.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Le Lausanne Sport accueille donc le Dynamo Kiev ce soir au stade de la Tuilière. Une rencontre dont le coup d'envoi sera donné à 20h.
En course à pied, Maud Matisse vise les sommets.
La Chablaisienne a changé de fusil d'épaule. Engagée en début de saison sur des épreuves plates de longue distance type marathon, elle a entamé fin avril sa transition avec les courses de montagne et ses objectifs sont affichés. L'athlète d'Olon voyagera en Espagne pour prendre part au championnat d'Europe ce week-end. Titrée à 3 reprises dans sa carrière, la Vaudoise de 35 ans a dû cette fois-ci adapter son programme en raison d'une blessure. D'ordinaire engagée sur de plus longues distances, elle a fait le choix cette année de réduire quelque peu la voilure. Maud Matisse.
Oui, alors j'aime quand c'est un peu plus long, mais j'aime bien aussi quand c'est plus court et puis voilà, quand une vitesse est un peu plus élevée, ça change mentalement. Et puis j'ai montré par le passé que j'étais aussi capable d'être devant sur des courtes distances. Oui, alors voilà, effectivement stratégique, mais je vais quand même aller chercher au minimum une médaille d'or. J'espère pouvoir la décrocher sur la discipline montée, mais j'ai aussi mes chances sur la discipline montée-descente. Et puis l'objectif, c'est de ramener deux médailles.
Maud Matisse au micro de Ludovic Turin. Vous l'avez entendu, Maud Matisse a annoncé la couleur. Elle tentera donc de ramener deux médailles de ces championnats d'Europe qui se tiennent ce week-end aux îles Canaries.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.